Vous écoutez la leçon biblique de l'église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 3 octobre 2021. Sujet, l'irréalité. Texte d'or, Jean. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Lecture alternée. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. La Bible. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai, et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, « Va, et il va, à l'autre, « Viens, et il vient. » Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient. Je vous le dis en vérité. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Puis Jésus dit au centenier. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore. Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tiré du livre d'études de la science chrétienne, « Science et santé, avec la clé des écritures » de Mary Baker Eddy. Toute réalité est en Dieu et sa création harmonieuse et éternelle. Ce qu'il crée est bon, il fait tout ce qui est fait. Nous apprenons en science chrétienne que toute inharmonie de l'entendement mortel ou du corps mortel est une illusion, ne possédant ni réalité, ni identité, bien que paraissant réel et identique. Étant donné que Dieu est bon et qu'il est la source de tout être, il ne produit pas la difformité morale ou physique. Donc une telle difformité n'est pas réelle, mais elle est illusion, le mirage de l'erreur. La science divine révèle ses grands faits. Sur leur base, Jésus démontra la vie, ne craignant jamais l'erreur et ne lui obéissant jamais, sous quelque forme qu'elle se présentât. L'existence mortelle est un songe. L'existence mortelle n'a pas d'entité réelle, mais elle dit « je suis ». L'esprit est l'ego, qui ne rêve jamais, mais qui comprend toute chose, qui ne se trompe jamais et qui est toujours conscient, qui ne croit jamais, mais qui sait, qui n'est jamais né et ne meurt jamais, L'homme spirituel est la ressemblance de cet ego. L'homme n'est pas Dieu, mais tel un rayon de lumière qui vient du soleil, l'homme, l'émanation de Dieu, reflète Dieu. Toute forme, toute couleur, toute qualité et toute quantité émanent des éléments infinis de l'unique entendement et sont mentales, originairement et secondairement. Leur nature spirituelle ne se discerne que par les sens spirituels. L'homme qui aime les choses du monde, en raison de sa sympathie pour la matière, est aux ordres de l'erreur et sera attiré par elle. Il ressemble au voyageur allant vers l'ouest pour faire un voyage d'agrément. La société est attrayante et les distractions passionnantes. Après avoir suivi le soleil pendant 6 jours, il retourne vers l'est le 7e jour, satisfait, pour peu qu'il s'imagine être entraîné dans la bonne direction. Peu après, honteux de sa course en zigzag, il voudrait emprunter le passeport de quelques pèlerins plus avisés, espérant par ce moyen trouver et suivre le bon chemin. Si nous oscillons comme un pendule entre le péché et l'espoir du pardon, l'égoïsme et la sensualité, nous faisant rétrograder constamment, notre progrès moral sera lent. S'éveillant aux exigences du Christ, les mortels éprouvent de la souffrance. Alors comme des hommes qui se doivent, ils font de vigoureux efforts pour être sauvés. Et grâce à l'amour précieux du Christ, leurs efforts sont couronnés de succès. Ce que l'on appelle sens matériel ne peut témoigner que d'un sens mortel et temporaire des choses, tandis que le sens spirituel ne peut témoigner que de la vérité. Pour le sens matériel, l'irréel est le réel, jusqu'à ce que ce sens soit corrigé par la science chrétienne. Le sens spirituel, en contradiction avec les sens matériels, implique l'intuition, l'espérance, la foi, la compréhension, la réalisation, la réalité. Le sens matériel exprime la croyance que l'entendement est dans la matière. Cette croyance humaine, qui oscille entre un sens de plaisir et un sens de douleur, un sens d'espérance et un sens de crainte, un sens de vie et un sens de mort, ne dépasse jamais les limites du mortel ou de l'irréel. Lorsqu'on atteint au réel annoncé par la science, la joie ne tremble plus, l'espérance ne trompe plus. Les idées spirituelles, comme les nombres et les notes, partent du principe et n'admettent aucune croyance matérialiste. Les idées spirituelles conduisent à leur origine divine, Dieu, et au sens spirituel de l'être. Un scientiste chrétien et un adversaire de la science chrétienne peuvent être comparés à 2 artistes. L'un dit « J'ai des idéaux spirituels indestructibles et admirables. Lorsque d'autres les verront comme je les vois, sous leur vrai jour, et dans toute leur beauté, et qu'ils sauront que ces idéaux sont réels et éternels parce qu'ils sont formés d'après la vérité, ils découvriront qu'on ne perd rien, mais qu'on gagne tout par une juste appréciation de ce qui est réel. » L'autre artiste réplique « Vous allez à l'encontre de mon expérience. Ma pensée ne forme que des idéaux à la fois mentaux et matériels. Il est vrai que la matérialité rend ces idéaux imparfaits et destructibles. Cependant, je ne voudrais pas échanger les miens contre les vôtres, car les miens me procurent beaucoup de plaisir personnel et ils ne sont pas si exagérément transcendantaux. Ils exigent moins d'abnégation de soi et tiennent l'âme bien cachée. D'ailleurs, je n'ai pas la moindre intention d'abandonner mes anciennes doctrines ou mes opinions humaines. » Cher lecteur, quelle image mentale ou pensée extériorisée accepteriez-vous comme réelle? La matérielle ou la spirituelle? Vous ne pouvez avoir les deux. Vous manifestez votre propre idéal. Cet idéal est soit temporel, soit éternel. c'est l'esprit ou la matière qui vous sert de modèle. Si vous cherchez à avoir deux modèles, pratiquement, vous n'en aurez aucun. Comme le pendule d'une horloge, vous serez jeté de droite à gauche, frappant les parois de la matière, oscillant entre le réel et l'irréel. La science chrétienne lève l'étendard de la liberté et crie « Suivez-moi, échappez à l'esclavage de la maladie, du péché et de la mort. » Jésus traça le chemin. Citoyens du monde, acceptez la liberté glorieuse des enfants de Dieu et soyez libres. Tel est votre droit divin. C'est l'illusion du sens matériel, non la loi divine qui vous a lié, qui a entravé la liberté de vos membres, paralysé vos facultés, affaibli votre corps et défiguré la table de votre être. Si pour gouverner l'homme, Dieu avait institué des lois matérielles dont la transgression aurait rendu l'homme malade, Jésus ne les eut pas enfreintes et n'eut pas guéri en opposition directe avec ces lois et au mépris de toute condition matérielle. La transmission de la maladie ou de certains traits caractéristiques de l'entendement mortel serait impossible si ce grand fait de l'être était compris, savoir que rien d'inharmonieux ne saurait pénétrer l'être, car la vie est Dieu. L'hérédité est un sujet fécond sur lequel la croyance mortelle peut épingler ses théories. Mais si nous apprenons que rien n'est réel que le bien, nous ne ferons pas de néfaste héritage, et les maux de la chair disparaîtront. Vous êtes maître de la situation si vous comprenez que l'existence mortelle est un état d'illusion produit par soi-même, et non la vérité de l'être. L'entendement mortel produit constamment sur le corps mortel les effets de fausses opinions. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que l'erreur mortelle soit privée de ses pouvoirs imaginaires par la vérité qui balaie les fils diaphanes de l'illusion mortelle. Apprenons à connaître le réel et l'éternel, et préparons-nous pour le règne de l'esprit, le royaume des cieux, le règne et le gouvernement de l'harmonie universelle. Harmonie qui ne peut être perdue, ni demeurée à jamais invisible. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme. Et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché. Et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.